Europe Matin Weekend, Lénaïque Monnier.
La balade du samedi, Vanessa Zah, Olivier Pouls, et avec une petite ambiance ce matin qui sent bon, la campagne, ouais, la forêt, les petits oiseaux. Un peu printanier, vos petits oiseaux quand même, Vanessa.
Oui, il y a des oiseaux
en toute saison. D'accord,
les pastros sont là en ce moment.
On va dans l'allée. Pour aller humer ce bois d'une forêt qui fait, figurez-vous, la superficie de Paris. Ah. 10 594 hectares. C'est la plus grande chênaie d'Europe. Ce qui lui vaut son nom, la forêt de Troncet. Pourquoi ? Parce qu'en patois bourbonnais, tronce signifie gros tronc de chêne. Je confirme. 49 des arbres de la forêt sont classés remarquables. Un exemple, hein, parmi d'autres, la sentinelle, c'est un chêne de plus de 400 ans et qui fait un tour de taille de 6 mètres. Voilà. On a un petit peu de marge quand même, encore Olivier.
Ouais,
c'est
manger,
c'est
ouais.
Un peu le chêne de Panoramix, en gros, dans Astérix, puisque c'est un chêne de type druidique. Et j'indique qu'il y a un circuit spécifique sur les traces des arbres patriarches, justement.
Alors, on comprend mieux pourquoi elle est labellisée forêt d'exception. Hein.
Depuis 2018, parce que c'est un patrimoine naturel par excellence. Pourquoi ? Pour ses histoires, ses paysages, sa biodiversité et donc ses bois de grande qualité. Donc le roi, vous l'avez compris, c'est le chêne, hein, Rouvre ou Cécile, mais il y a aussi des hêtres, des chênes et même quelques pins sylvestres. Donc c'est aussi un temple de la biodiversité. Je ne vais pas vous faire toute la liste des cerfs, des sangliers, etc. Mais il y a surtout 21 espèces de chauves-souris et 600 insectes coléoptères, évidemment, parce qu'il y a du bois.
Voilà. Et un temple d'histoire, à ce que vous disiez, lesquels ?
Alors, celle de la grande histoire, évidemment, celle du XVIIe siècle surtout, parce qu'après la fronde, donc la marine était dans un sale état. Il faut savoir que pour construire un seul navire royal, il fallait quand même 3000 arbres. Et donc, Colbert, le contrôleur des finances de Louis XIV, réorganise les ressources en bois du royaume et elles vont être dédiées au chantier naval. Alors pour ça, il édite une grande ordonnance des eaux et forêts pour protéger donc sa ressource. Et alors au final, Troncet va pas être tant utilisé que ça. Pourquoi ? Parce que les arbres poussent lentement. D'accord. Les bois, en fait, sont de trop bonne qualité. Il n'y a pas assez de défauts, en fait.
On les garde pour autre chose.
Voilà. Et donc, ils sont exclus pour le chantier naval. Donc, finalement, bien protégés cyniquement par cet édit.
Alors, si on veut partir en balade,
est-ce que vous savez à quoi ils servent essentiellement les bois de chêne de la forêt de Troncet ?
Tonneaux.
Exactement. À faire des tonneaux pour le vin. Et c'est parmi les meilleurs chênes pour faire des tonneaux de qualité pour les loges du vin.
D'accord. Ah, bah, c'est formidable.
Super.
Deuxième bonne occasion d'aller la visiter, cette forêt. Comment on le fait justement ? Comment on la visite ?
D'une manière originale. On va faire en canicarte. En fait, ça remplace le traîneau l'hiver quand il n'y a pas de neige. Alors, c'est des sorties de 2 heures. Donc, vous préparez le matériel. Vous avez une histoire sur le chien de traîneau, sur la naissance des attelages en Alaska, qui remontait à la ruée vers l'or. Et puis, une heure de parcours, donc, dans la forêt.
Alors, justement, j'imagine que ces chiens sont des ouskis.
Eh ben non. C'est pas des skis, c'est des Alaskans.
Vous me piégez à chaque fois.
Ben non, mais en fait, moi non plus, je savais pas ce que c'était avant de parler à leur maître, Sylvain Cordeau, donc d'Itinérance Machine.
L'Alaskan, c'est pas une race de chien, c'est un type de chien, puisque c'est un mélange qu'on a imaginé à l'époque de la ruée vers l'or, début des années 1910, on va dire, donc entre du husky de Sibérie, du braque, du pointer et du lévrier. Donc on a la base du husky de Sibérie pour la rusticité, le braque et le pointer pour la puissance et le lévrier pour la rapidité.
Ah oui, donc vraiment une grosse variété, c'est varié. Hein,
on est d'accord, vous êtes plutôt pointer, Olivier, ou pas ?
Oui, pointer pour son nez, la qualité de son nez.
Ah, puis les braques, qu'est-ce que c'est beau, les braques,
c'est majestueux, c'est élégant en plus. Voilà.
Du coup, on est moins bête.
On est moins bête, on est moins bête ce soir. Voilà, on aura appris des choses. Et alors pour dormir, un petit hôtel plein de charme, le Troncet, en plein cœur de la forêt Troncet, et au bord de l'étang de Troncet.
Et quand on va dormir, on va manger au préalable avec vous, Olivier. On va rester en Auvergne, évidemment, pour parler d'un produit original qui est la tome fraîche.
L'incroyable tome fraîche, à ne pas confondre avec la tome d'Auvergne, qui est un fromage à pâte pressée non cuite et qui a été affiné. En réalité, la tome qui s'écrit avec un M, la tome fraîche, ne se mange pas en tant que telle. C'est la première étape de fabrication d'un fromage. C'est un fromage qui n'est pas fini, du Laguiole, du Salers ou du Cantal. Et donc, si vous la mangez comme ça, vous allez la trouver très fade, sans intérêt. C'est vraiment un fromage qui est destiné à des préparations. Et il y a deux célèbres préparations dérivées de ce fromage, évidemment. ou la truffade. Truffade qui, contrairement à ce que son nom indique, ne contient pas de truffe. C'est comme une espèce de gratin de fromage avec la fameuse tome.
Alors, d'où vient cette aligo, justement, dont vous nous parlez ?
Eh bien, elle nous vient des moines et du XIIe siècle. Aligo vient du nom aliquid, en latin, du terme aliquid, lorsque les pèlerins qui faisaient le chemin de Saint-Jacques de Compostelle s'arrêtaient et demandaient aliquid à manger. Et on leur donnait de l'aligo. À l'époque, l'aligo était composé de pain et de fromage. Et ensuite, c'est au XVIIIe siècle que, suite à une crise du blé, le pain a été remplacé par la fameuse pomme de terre.
Alors, où est-ce qu'on en déguste cet aligot ?
Alors, on peut en
chez
déguster.
Chez vous, peut-être.
Alors, chez moi, éventuellement. À la maison de l'Aubrac à Paris, ou le pont du Cantal, il y a le restaurant de l'Aubrac à l'Aïeul aussi, évidemment, si vous voulez être sur place. Et puis, vous pouvez la faire vous-même, ce fameux aligot, vous pouvez le faire. Purée de pommes de terre, donc 500 grammes de pommes de terre, 50 grammes de beurre, 20 grammes de crème, c'est déjà un peu riche. Et ensuite, 300 grammes de tomes fraîches que vous allez mettre par petits dés. Et petit à petit, en mélangeant la purée de pommes de terre avec la tome, en faisant des 8, vous savez, comme ça. Avec votre...
comme quand on fait de la godille.
Exactement, avec votre cuillère en bois, vous allez avoir la tome qui va fondre et qui va commencer à filer. Et puis alors là, c'est un jeu d'enfant, c'est même assez amusant.
Oui, c'est plutôt ludique,
de voir ces grands fils.
Alors, très joueuse,
l'énergie. On prend deux cuillères, tac, 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 on les roule l'une en face de l'autre, et on fait comme ça des espèces de rubans d'aligots qu'on coupe avec des ciseaux, parce que sinon, c'est presque interminable.
On coupe avec les ciseaux,
Avec des ciseaux.
Bon, on n'a plus qu'à y aller. Merci à tous les deux.